au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un hunch, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 MHz, c'est la plus rebelle des radios. Et c'est l'émission du Cirque du collectif d'information et de recherche cannabique comme tous les lundis soirs depuis plus de 20 ans. Presque 30. Et donc...
Tous les lundis, sauf lundi dernier, on est désolé.
Ouais,
un petit couac entre nous.
Un grand nombre de lundis, on va dire.
Voilà.
On va essayer d'être plus assidus à cette émission que vous êtes nombreux à écouter. Et donc, on va revenir sur toute la revue de presse de cette dernière semaine.
Ouais, avec un peu d'infos même de la semaine d'avant.
Voilà, avec des trucs sur les tests salivaires qui continuent, avec le cannabis et les clichés, et donc il faut en sortir, on va revenir un peu là-dessus. On va revenir sur le débat avec Vaillant, ou avec les pneumologues, entre autres Bertrand Dotzenberg.
Bah surtout lui, en tout cas.
Surtout lui, ouais, qui dit des choses intéressantes sur le cannabis en France aujourd'hui. C'est l'alcool frelaté du temps de la prohibition, par exemple. Bref, il demande une légalisation encadrée. On reviendra un petit peu sur ces arguments, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. On reviendra aussi sur Esther Benbassa, qui apporte sa pierre là-dessus, qui rappelle que ça ramènerait 2 milliards d'euros à l'État, ce qui n'est pas mal. On parlera aussi de nouveau de la mémoire et du QI avec le cannabis. Est-ce que le cannabis fait perdre le QI? Est-ce que le cannabis fait baisser la mémoire? Voilà, des débats qui restent.
C'est pas nouveau non plus.
Depuis des années. Et puis des choses un petit peu nouvelles. C'est dans les États américains qui ont légalisé le cannabis. Le cannabis récréatif ou le cannabis en général, il y a dans certaines entreprises des pauses cannabiques les entrepreneurs et pour les chefs d'entreprise, c'est un stimulant à la créativité. Donc voilà, on reviendra là-dessus.
Parce que c'est pas dans toutes les entreprises du Colorado non plus.
Hein. Voilà, non, dans quelques-unes seulement.
Puis on verra pourquoi dans celle-là.
C'est vrai,
les
entrepreneurs étant des fumeurs, ça aide.
Oui, et puis ayant même une entreprise spécialisée dans... Enfin, ayant un lien avec le cannabis business, donc bon.
Voilà, et enfin, on discutera un petit peu des effets hype, des effets négatifs. Un grand article de Sensicide, alors je ne sais pas si on arrivera dessus, avec beaucoup de choses.
Ouais, il est intéressant, en tout cas au moins donner l'information pour le consulter.
Voilà,
parce qu'il y a peut-être des gens que ça intéresse. C'est assez...
Tout à fait, pour les rapports THC-CBD qui sont intéressants. Des choses aussi par rapport à l'herbe d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte qu'avant? En tout cas, elle n'atteindrait pas les 25-30%. Ça c'est plus du mythe. Mais en tout cas, a priori, on considère quoi. En tout cas, cet article considère que l'herbe des années 80 tournait autour de 3%, alors qu'aujourd'hui, elle tourne autour de 10%. Donc, elle serait un peu plus forte en THC qu'avant. Voilà. Donc, un grand article. Voilà sur sensicide.com. Sur le blog, pourquoi certaines personnes consommant du cannabis pour la première fois se sentent coincées dans un height.
Dans un high, oui.
Dans un high, ouais. High, il n'y a pas de T.
Ça veut dire planer, quoi.
Veut dire être loin, haut.
Voilà.
Voilà un petit peu pour le sommaire. Vous voyez qu'il est assez complet, assez...
Ouais, j'en ai même enlevé par rapport à la semaine dernière, parce que sinon, je crois que même en 2 heures, on n'aurait pas pu...
Voilà,
même donc là, comme déjà, on n'a qu'une heure.
En une heure, on ne va pas y arriver. Il y a 15 ouais. jours, il y avait un article qu'on avait laissé de côté et qu'on n'a pas repris non plus. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. On va revenir tout de suite après une petite pause de musique.
Simone, on va voir le jeu Saint-Lamarthe.
Un jardin, un petit potager, tout va bien Simone. Le lapin s'est sauvé du clapier, si même pour personne. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à labourer les champs de maïs. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à planter les plants cannabis. Un sapin en du clocher, les cloches s'étonnent. Un marin marche dans le pré, les vaches marmonnent. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à labourer les champs de maïs. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à planter les plants cannabis. Marguerite, dis-moi vite, quel est le secret de mon cœur? Marguerite, dis-moi vite, quel est le secret de mon cœur? Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Ce matin, le camion du boucher a cassé son klaxon. Un malin a volé le fermier, les voisins rigolent. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à labourer les champs de maïs. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à planter les plants cannabis. Marguerite, dis-moi vite, quel est le secret de mon cœur? Marguerite, dis-moi vite, quel est le secret de mon cœur? Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Une catin est venue s'installer pour verser la gnôle. Un patin à monsieur l'abbé, les buves d'eau s'affolent. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à labourer les champs de maïs. Cultivateur, des airs sur ton tracteur, à planquer des plants cannabis. Marguerite, dis-moi vite, quel est le secret de mon cœur? Marguerite, dis-moi vite, quel est le secret de mon cœur? Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Un jardin, un petit potager, tout va bien Simone. Le lapin s'est sauvé du clapier, si mais pour personne.
Et voilà, c'était la saga campagnarde.
Un morceau inédit.
Pas totalement, je pense qu'on l'a déjà passé.
Ah oui, non mais au moins, inédit quand même, parce que
très très rare en tout cas. Voilà, on est.
Je suis même presque sûr qu'à la chance aux chansons, elle y est jamais passée celle-là.
Oui, et donc c'est Fabienne Pralon.
Fabienne Pralon. Voilà.
Voilà, donc c'est un CD que nous a laissé
un animateur ancien, historique.
Voilà, un ancien
de Radio Canu.
Tout à fait, avec plein de petites chansons. Bon, on passera là-dessus. Alors, il faudra être très attentif. C'est que juste une petite allusion au cannabis dans la chanson, mais tout en parle plus ou moins.
Voilà. Donc, merci à Jean-Pierre pour nous avoir donné. Voilà, ce qu'on a quand même. Merci à Jean-Pierre pour cette compilation cannabique.
Voilà. Et donc, nous revenons à notre.
Notre revue de presse.
Notre revue de presse avec le cannabis au volant. Les tests salivaires sans cause préalable.
Voilà, on en a déjà parlé en fait. On a déjà dit un peu ce qui se dit dans cet article. Mais
tout à fait, mais là ça rentre en application.
Ça rentre en application, puis c'est pas un luxe d'en reparler en fait, parce qu'on est énormément à être concernés par ça. Et au cirque, régulièrement, plusieurs fois par mois, voire par semaine, on reçoit des appels de cannabinophiles qui se sont fait toper au volant, quoi. Et qui savent pas trop ce qui leur arrive, qui perdent parfois leur permis, qui ont des amendes, qui se retrouvent au tribunal ou pas. Alors c'est assez difficile à savoir, parce que quand les personnes nous contactent et nous donnent pas toutes les informations, donc nous-mêmes, pour nous, c'est pas évident de les informer ou de les orienter. Donc voilà, j'en profite aussi, puisqu'on parle de ce sujet-là. Donc, si vous avez des ennuis et que vous contactez le cirque, c'est intéressant, effectivement. Ça peut être intéressant de faire appel à nous et de demander de l'aide. Mais nous, ce qu'on vous demande, c'est aussi de nous tenir informés le plus complètement possible et de nous tenir informés par la suite. Parce que la plupart du temps, on est contacté, mais on ne sait pas ce qui se passe après.
Voilà, ce qui nous intéresse, savoir comment ça s'est passé au procès.
S'il y en a eu un.
Voilà, s'il y en a eu un, si ça a été classé sans suite ou pas. Si des peines ont été appliquées, combien? Parce qu'on vous rappelle quand même que de fumer au cannabis, ou même si on de fumer au volant, même pas si on a des traces de cannabis, donc même si on a fumé quelques heures avant, on peut encore avoir des traces salivaires. Et cela en cours jusqu'à 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et la perte de 6 points sur son permis.
Voilà.
Et encore, voire même des peines complémentaires. Voilà. Donc, on a besoin de vos retours pour.
Et puis, alors souvent, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que vous pensez que c'est intéressant de faire appel à un avocat ? Et moi, je serais tenté de penser que oui, c'est intéressant, voire important de faire appel à un avocat. Ne serait-ce que pour voir si, quand même, tout s'est fait un peu dans les règles, en fait. Parce que des fois, c'est pas trop le cas. C'est un peu olé olé.
Alors, d'autant plus avant, où, pour pouvoir faire des tests salivaires, la police ne pouvait le faire, ou les forces de l'ordre ne pouvaient le faire, que s'il y avait eu une infraction ou
un accident corporel.
Ou un accident corporel, ce qui est toujours vrai, mais ou s'il y avait quelque chose qui permettait de penser que vous aviez fumé dans les dernières heures.
En gros, votre tête, quoi.
Voilà, c'est donc tout, maintenant, par contre,
comme pour l'alcool, en fait, voilà. Parce que pour l'alcool, de temps en temps, il y a des contrôles d'alcoolémie au bord de la route. Comme ça, il n'y a pas eu d'accident, rien du tout, mais les flics se pointent et ils font un contrôle d'alcoolémie. Voilà, là, ça va être pareil pour le cannabis. Ils pourront, pour l'alcool, faire un test salivaire. Et s'il est positif, au lieu de vous emmener à l'hôpital faire un test sanguin, parce que c'était le sang qui faisait foi devant la loi, maintenant, c'est plus la peine. Un second test salivaire viendra confirmer ou infirmer le premier.
Tout à fait.
Plus besoin de tests sanguins.
Voilà, et ce deuxième tampon sera analysé de façon plus précise en laboratoire. Voilà, donc ça c'est grâce ou à cause de la dernière loi santé. Merci Madame Touraine, si je ne me trompe pas. Cette nouveauté élargit considérablement les possibilités de faire pratiquer un test de dépistage à un conducteur.
Alors, oui, et en théorie, c'est ce qui est écrit, le nombre de contrôles pourrait exploser en France. Ça, c'est possible, ouais. Et pas qu'en théorie.
Voilà, donc les jeunes vont se faire contrôler.
Oui, parce que, mais c'est terrible, hein. Il faut encore le rappeler, hein, et on en profite, mais c'est quand même les jeunes, effectivement, qui sont les plus scrutés, les plus observés par les forces de l'ordre lorsqu'elles sont au bord des routes et qu'elles effectuent des contrôles, on va dire, en tout genre. Votre âge, donc votre jeunesse, mais aussi votre look, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est légal, hein. Surtout ça qui est ennuyeux, c'est-à-dire qu'on peut vous contrôler, c'est au faciès quoi en fait, hein. Donc inutile de vous dire que si vous avez des boucles d'oreilles, des piercings, des tatouages, des dreadlocks, vous passez rarement à côté quoi. Voilà, c'est salaud mais c'est comme ça quoi.
Oui, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet article.
Le plus important à retenir, hein, c'est que maintenant plus besoin du test sanguin, un deuxième test salivaire suffira. Et donc, si vous avez des soucis, allez voir un avocat ou appelez le cirque ou les deux.
Voilà. Tout à fait. Ouais. Il faut toujours faire appel à un avocat. Ce que font aussi beaucoup de gens quand ils sont pris avec 0,6 ou 0,7 grammes d'alcool.
Exactement. Voilà.
Sinon, donc, dans 20 minutes, jeune favorisé fume.
Non, c'est en fait c'est un article qui veut démonter un peu les clichés sur le fait que beaucoup de personnes pensent que les gens qui fument du cannabis sont essentiellement des jeunes issus des milieux populaires et des quartiers sensibles. Et on en a déjà parlé à
cliché.
Dans cette émission. Hein.
Tout à fait. On le sait d'ailleurs grâce au
l'OFDT qui avait fait un gros travail en 2005. Alors c'était il y a plus de 10 ans, mais la tendance se confirme, hein, visiblement.
Voilà, donc...
C'est pas une tendance, c'est une réalité, tout simplement.
Différentes choses qui rappellent. Donc, contrairement aux idées reçues, à 17 ans, la consommation de cannabis est plus importante en Languedoc-Roussillon ou en Bretagne, et en Bretagne, plus qu'en Île-de-France. Donc, à Paris, ce n'est pas l'endroit où on fume le plus. À Paris, toujours, donc dans les quartiers aisés du sud-ouest, la capitale, les jeunes ont plus expérimenté le cannabis, jusqu'à 58%, alors que ceux du nord-est, donc dans des zones un petit peu plus défavorisées, seulement 1 sur 2, donc 50%. Donc la proportion n'est pas totalement différente, mais quand même, dans les quartiers donc aisés, les gens, les jeunes, prendrait plus de produits stupéfiants et fumerait plus de cannabis. Et d'ailleurs, si on se rappelle ce qu'on avait dit il y a quelques années, pour les autres produits, c'est pareil. Hein, plus dans les milieux aisés, les jeunes consomment plus de tout, plus que...
C'est pas que du cannabis.
Voilà, y compris l'alcool, y compris tout ça. Puisque, en général, tout est associé. Voilà, donc... François Beck, le directeur de l'OFDT, donc l'Office français des drogues et de la toxicomanie, rappelle il y a dans les quartiers populaires toute une jeunesse qui ne consomme pas de cannabis et qui ne veut pas du tout être associée à cette petite partie de jeunes très consommatrices. Voilà, c'est une petite minorité beaucoup plus visible qui occupe le terrain et qui façonne l'image d'un quartier. Un psychiatre, Richard Reichmann, anthropologue et directeur d'études à l'EHESS. Moi, je ne sais pas à quoi ça correspond.
L'École des hautes études en sciences sociales.
Voilà, donc, rappelle le sentiment d'invulnérabilité recherché par la jeunesse. Et il dit que ce sentiment fonctionne encore plus dans les quartiers défavorisés, car il est battu à brèche par une école, des parents, des travailleurs sociaux en difficulté et un discours ambiant très violent à leur égard.
Oui, ils sont fortement stigmatisés, quoi. Et ça aide pas à faire de la prévention, la stigmatisation. Ceci dit en passant.
Tout à fait.
Pour dire les choses simplement et... Et donc ils se sentent invulnérables et je continue. Hein. Et en plus, ben le discours de l'institution qui se veut justement un peu plus comment dire, qui se veut être un discours justement plutôt entre guillemets de raison et parfois même d'interdiction. Et forcément, quand vous vous sentez, quand vous êtes stigmatisé, que vous vous sentez invulnérable et que vous consommez des produits et qu'en face c'est l'institution qui cherche à éventuellement vous en dissuader ou voire même carrément à vous criminaliser, ça aide pas quoi. Et en plus, ils ont pas forcément les perspectives d'avenir formidables devant eux. Alors dans cet article, je sais pas pourquoi on a interrogé cette dame qui, à mon avis, sur le sujet, n'est pas spécialement compétente, mais bon, en tout cas, c'est Fadela Amara qui est l'ancienne présidente de Ni Pute Ni Soumise. Donc, je précise, je ne sais pas trop pourquoi on est allé la chercher, elle. Mais bon, en tout cas, ce qu'elle dit, quand même, pas trop inintéressant. Alors, elle dit déjà que l'entrée de beaucoup de jeunes des quartiers dans la consommation de drogue et la dépendance est liée d'abord à une question financière. Et elle dit, on a des enfants, par exemple, qui deviennent guetteurs dès l'âge de 8 ans. Ce qui ne nous surprend pas. Hein. On avait déjà le même phénomène aux États-Unis pendant la prohibition de l'alcool. C'est cette porte d'entrée vers la drogue qui génère des revenus et qui deviendrait une perspective pour certains jeunes qui n'y croient plus. Donc il y a aussi une décomposition sociale des quartiers. Madame Amara, qui était ancienne secrétaire d'État chargée à la politique de la ville, parle là effectivement des structures d'éducation populaire qui existaient avant dans les quartiers et qui n'existent plus, surtout depuis une dizaine d'années, hein, depuis que Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur, il avait déclaré, cette phrase qui est restée célèbre, les policiers qui travaillent dans les quartiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les délinquants. Voilà. Et donc avant, dans ces quartiers, il y avait, en plus des structures d'éducation populaire, il y avait aussi des agents locaux de médiation qui avaient été mis en place notamment par l'équipe de Jospin.
Oui, c'était la police de proximité qui mettait du temps à se mettre en place parce que c'est long de créer un processus et qui a été cassé très rapidement par Sarkozy, qui a essayé de le remettre à la fin de son mandat d'ailleurs.
Et depuis que Hollande est président, on n'a même pas entendu parler. Donc voilà, il n'y a plus tout ça dans les quartiers. Ceci dit, quand il y avait déjà ces structures, il y avait quand même aussi du trafic de drogue dans les quartiers. Il ne faut pas non plus... croire que tout ça, ça vient que depuis que Sarkozy a été ministre de l'Intérieur. Pas du tout. Donc il faut agir globalement également, en plus du local. Alors là, est interviewée Madame Jourdain-Méninger, présidente de la MILDECA, qui elle revendique un travail de dentelle en direction des consommateurs de drogue. Je vois à peu près ce qu'elle veut dire, mais en fait, en même temps, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'il faut faire de la dentelle, créer des ateliers dentelles avec les jeunes? Je ne crois pas, mais je vois pas trop ce qu'elle veut faire. Bon. Alors ça se traduit, nous dit-elle, par une communication des jeunes vers les jeunes. Alors elle nous parle d'éducation par les pairs, de jeunes qui parleraient des dangers du cannabis à d'autres jeunes par le biais de clips vidéo, par exemple. Oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait d'abord enlever la stigmatisation, la criminalisation, légaliser, et tout ça, on pourrait repartir là-dessus, mais sinon...
Mais bon, pas ce qu'on peut faire. Si on revient en arrière, je me souviens que... comment il s'appelait ceux qui voulaient la légalisation contrôlée disaient...
Caballero.
Avait un slogan, tu t'es vu quand t'as mes fûts, en faisant référence à un verre, ça va, à trois verres, bonjour les dégâts, voilà, un slogan un peu identique, pourquoi pas. Voilà ce qu'il faut faire, une société sans drogue n'existe pas, donc, mais il faut éviter le passage de la dépendance qu'il faut éviter à tout prix.
Voilà, merci Madame Jourdain-Méninger. Il y avait un portrait la concernant la semaine dernière dans la revue de presse que j'avais préparée. On n'a pas pu parler, je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Ce n'était pas non plus des infos déterminantes. Mais...
D'accord, mais fera un de ces jours, on ira voir. Donc Daniel Jourdain-Méninger est la présidente de la MIL.
DECA, la MILDECA.
La MILDECA. Voilà.
Alors, nous, on n'est pas à Paris, hein, on est le Cirque Lyon, mais on a nos collègues, parce que le Cirque, c'est quand même une antenne parisienne aussi au départ. Et on a des collègues militants dans la réduction des risques et la légalisation à Paris, et eux, ils la rencontrent de temps en temps. Parce qu'il y a la Fédération Addiction à Paris. Il y a beaucoup d'organisations qui militent depuis longtemps et qui la connaissent, et qui connaissaient avant. Enfin, la MILDECA, on les connaît. Voilà, bon, Madame Jourdain-Méninger, elle n'est pas très... Enfin, elle ne va pas légaliser, hein. De toute façon, elle ne veut pas toucher à ça.
Ah, pour l'instant, non. Mais on va revenir là-dessus avec le débat avec Vaillant et...
Et Dotzenberg.
Et Dotzenberg, tout à fait. Mais avant ça, juste peut-être parler des deux études qui sont dans Slate.fr. Dans Slate.fr, voilà. Si vous fumez du cannabis tous les jours pendant 5 ans, voilà ce qui vous arrivera. Donc, deux études qui... L'une sur la mémoire. Donc, le cannabis affecte la mémoire, en tout cas la mémoire à court terme.
La mémoire immédiate, ouais, je crois que c'est ça.
Donc ils ont fait des études qui a été une étude qui a été publiée dans la revue JAMA International Medicine qui a été faite sur 3400 Américains sur une période de 25 ans. Donc avec des gens qui fumaient tous les jours, d'autres un peu moins, etc. Donc ils ont remarqué que sur une liste de 15 mots qu'on leur demande de mémoriser, les utilisateurs ayant fumé tous les jours pendant 5 ans se souvenaient en moyenne d'un demi-mot en moins que les autres. Soit 8,5 mots contre 9. Voilà, assez peu, mais au bout de 25 ans, ce n'est plus un demi-mot, mais 2,5 mots, puisque ça serait... Voilà, donc il y aurait une perte sur la mémoire qui dépendrait donc de l'exposition du cannabis sur du long terme. Donc des chercheurs ont même mis en place un concept de d'année cannabis. Voilà.
Faudra dire ça à un certain nombre de personnalités qui ont fait leur coming out cannabique ces derniers mois. Je pense par exemple à un célèbre acteur qui est très populaire, qui s'appelle Morgan Freeman, qui a déclaré publiquement dans les médias américains « Le cannabis, je le fume, je le sniffe et je le bois et je le mange. » Et tout cela depuis plusieurs décennies.
Voilà.
Il doit être dans un état, monsieur Morgan Freeman.
Mais il avait peut-être beaucoup de mémoire, donc il en a juste un tout petit peu perdu.
Il ne peut plus jouer, il ne peut plus être acteur au cinéma, c'est plus possible.
Voilà, donc ça c'était pour la mémoire immédiate. En revanche, pour le QI, a priori, donc c'est une autre étude américaine qui a été faite à la Northwestern University, qui montre donc des performances de mémorisation inférieures à 18%, donc qui rejoint l'étude antérieure. Et puis, l'autre étude, c'est une autre étude, est-ce que c'est la même ou pas, j'ai du mal à voir, qui a été faite sur des paires de jumeaux dont on... Sur
non, 290, c'en est une autre, celle-là.
C'en est une autre qui a été faite... Donc c'est le Washington Post qui en parlait, mais c'est une étude qui a été faite sur 290 paires de jumeaux, dont seul l'un des deux fumait, donc les mêmes gènes, les mêmes choses, et là on a vu que les tests d'intelligence ont montré qu'il n'y avait aucune différence entre le jumeau fumeur et le jumeau non fumeur. Donc le cannabis n'affecterait pas l'intelligence et affecte que peu la mémoire. Bien sûr, l'article rappelle que les fortes doses entraînent des risques de dépendance, de psychose, de dépression et d'isolement social qui sont bien réels. Là aussi, il faudrait des études pour le prouver. voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les études. On va partir en musique, toujours avec...
Notre compile du H pour se fendre la gueule.
Voilà, et tout à fait. Allez, à tout de suite.
Tu bouffais du hache quand je buvais du sirop. De Muramasé et tout près de Toronto. Tu traînais ton arme comme je traînais ma peau. Une vague à l'âme ou un mal d'auto. Voyais New York derrière les carreaux. Était 5 o'clock, c'était pas de gâteau. Des graffitis noirs le long du métro. Et Manhattan le soir, tu trouvais beau. Tu couchais dehors. Sous les oiseaux, pas loin du Cap Nord, ton Eldorado. Tu traînais tes guêtres comme je traînais mes os. Un besoin peut-être de se foutre à l'eau. Tu voyais Boston quand je voyais Bordeaux. Tu vivais de freedom et de marshmallow. Roulant la nuit sur le macadam. Des joints bleutés de Marie-Jeanne. Tu bouffais du hash quand je buvais du sirop. Ramassé tout près de Toronto. Tu traînais ton arme comme je traînais ma peau. Une vague à l'âme ou un mal d'auto. Tu voyais New York derrière les carreaux. C'était 5 o'clock, c'était pas de gâteau. Des graffitis noirs le long du métro. Et Manhattan le soir, tu trouvais beau.
Et voilà, donc c'était la chanson H, qui est chantée par et composée par Mariero Isabelle.
Voilà, toutes les couleurs de la chanson dans Cannabis Circus.
Et donc, on va reprendre le débat avec Vaillant, qui en remet une petite couche. Vous savez, surtout pour les jeunes. C'était un ancien ministre de l'Intérieur qui, quand il était ministre, d'ailleurs, pourfendait les consommateurs, comme tous les ministres de l'Intérieur, mais qui, depuis qu'il n'est plus ministre, a fait ce bat contre ça. Donc, il rejoint ainsi, comme beaucoup d'anciens présidents ou d'anciens ministres d'Amérique du Sud, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça. Ce qui est dommage, c'est toujours, une fois qu'ils sont plus au pouvoir, qu'ils se rendent compte qu'ils ont raté quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il continue sur son idée. Il avait sorti plusieurs livres, il avait même fait un rapport parlementaire.
Oui, en 2011, surtout.
Pour cherchant à démontrant qu'il était plus utile de légaliser que de continuer à le combattre. Et donc là, il reprend la parole. Donc un peu, c'est un peu l'introduction suite au débat qu'a relancé donc Bertrand Dotzenberg récemment lors d'un congrès de pneumologie. Daniel Vaillant apprécie qu'un pneumologue vienne à la rescousse sur ce sujet.
C'est sûr, ils sont tous.
Donc lui, il dit qu'il faut éviter le cannabis, qui est surtout avec du tabac. Donc les deux sont un petit peu difficiles. Voilà. Et donc, ce qu'il y a surtout, c'est que il faut changer de politique, hein, parce que on a une des politiques les plus répressives d'Europe avec la République tchèque, la législation qui est une des plus répressives d'Europe, donc conduit des jeunes Français à consommer de plus en plus. Les jeunes n'ont pas peur de cette substance, on essaye de leur faire peur, mais ils n'y croient pas. Je confirme que le cannabis est un produit dangereux, qu'il conviendrait d'en consommer de moins en moins, mais quitte à ce qu'on en consomme, j'aimerais qu'on le fasse de manière plus hygiénique possible. Or, on a tout faux actuellement. Voilà, donc là-dessus, on est plus ou moins d'accord avec lui, mais en tout cas, c'est la bonne façon d'aborder les choses, puisque la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est de pouvoir lui assurer de qu'est-ce qu'il prend et que le produit qu'il prend n'est pas frelaté. Voilà, et il rappelle qu'il est contre le tabagisme, contre la consommation de cannabis et contre la consommation abusive d'alcool, qu'il le rappelle, est la drogue la plus dangereuse de toutes. Voilà, il faudrait un débat un peu plus apaisé en France, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il rappelle d'autre? Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre d'intéressant là-dessus? C'est un débat, donc c'est dans les Inrocks hein, qu'il a été interviewé, donc... Donc lui, il est pour une légalisation contrôlée qui est la solution. Il faut suivre la production et l'importation d'une filière authentique déclarée transparente. Voilà, quelques chercheurs préconisent même d'utiliser l'argent de la taxation issue de la vente légale pour contrôler et contrôler du cannabis, peut-être dédié à la prévention et à la dissuasion. Voilà, il faudrait harmoniser la législation. Tant que les gens pourront acheter du cannabis à Amsterdam alors que c'est interdit chez nous, il y aura des effets d'aubaine. Bon, il n'y a pas besoin d'aller à Amsterdam pour en avoir. Il y en a de plus en plus d'autoproducteurs, on lui rappellera, monsieur Vaillant. Voilà, donc pour lui, il faut sortir des tabous, parce qu'actuellement, c'est assez difficile. Il s'est fait traiter de fumeur de joint, monsieur Vaillant, donc il en est assez désolé, alors qu'il n'a jamais consommé de sa vie.
Comme tous les autres, hein, d'ailleurs.
Voilà, mais il ne croit pas que la prohibition évitera le danger. Le danger vient du fait qu'on est arc-bouté sur la loi de 70, comme les États-Unis l'ont été sur la prohibition de l'alcool. Voilà, enfin, la dernière question qu'on lui posait, c'était qu'est-ce qu'en pense Hollande? Donc Hollande, lui, est un peu bloqué, hein, il est bien sur la position, on va dire, mitterrandienne. Si on parle de drogue, c'est pour hurler avec les loups. Donc là, quand Payon ou Duflo ont essayé de rejoindre ses pas, quand le débat s'est arrêté net, le Premier ministre lui-même n'était pas favorable, Montebourg lui avait claquer la porte au nez. Voilà. Et la plupart des membres du gouvernement disaient c'est ridicule, ça va faire un appel d'air. Alors qu'on le voit avec le Colorado, ce n'est pas du tout le cas.
Alors j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder, alors parce que Dotzenberg il est passé à la télé cette semaine, et notamment dans le petit journal de Yann Barthès sur Canal Plus à 20h15, si je me trompe pas. Et c'était très intéressant. Très intéressant. Alors, pas que ce que disait Dotzenberg, il disait ce qu'il disait était très intéressant, mais un peu tout le montage du reportage qui avait été fait par l'équipe du petit journal. Et c'était rigolo parce qu'il montrait justement François Hollande en 2011 avant les élections, qu'est-ce qu'il disait au sujet du cannabis. Et ce que disait Hollande en 2011, c'était très intéressant. Il disait oui, il faut se mettre autour d'une table tous ensemble, les pays européens, c'est un truc qu'on doit décider ensemble et tout ça et tout ça. Puis bon, après une fois qu'il a été élu, on sait ce qui s'est passé. Ce qui était rigolo aussi, c'était que ce que montraient les journalistes, c'était justement tous ces politiques qui, quand on leur pose la question « Est-ce que vous avez déjà fumé du cannabis ?» disent non. Et ils remontraient justement l'interview de Manuel Valls chez, je sais pas qui, Bourdin, je crois, quand il lui demandait « Est-ce que vous avez fumé ?» et qu'il disait bon, « Peut-être une fois, mais je sais pas si vous vous rappelez. » Donc voilà, il y avait un peu tout ça qui était montré. Et alors, vous pouvez retrouver cette vidéo l'interview de Dotzenberg avec Yann Barthès et toute l'émission, toute la partie de l'émission est entrée au cannabis. Vous pouvez retrouver ça en allant sur Cirque TV ou en passant directement par le Cirque Lyon et sur votre gauche, vous verrez un écran de télé avec un clown. Là, vous tapez dessus, vous cliquez dessus, pardon, et vous retrouvez dans la partie Cirque TV sur YouTube et vous pourrez revoir facilement la vidéo. Voilà.
Voilà, mais moi qui l'ai raté, je suivrai ce conseil.
Tu iras, voilà. C'était vraiment très intéressant. Ce que disait Dotzenberg était vraiment
tout à fait. Bah là on a
détonné beaucoup par rapport à ce qu'on a entendu.
Outre le petit journal, il est passé dans plein de journaux.
Ah bah ça fait couler beaucoup d'encre. Hein.
Il est passé dans Le Monde, dans Le Point, dans Ouest France, même dans Le Figaro.
Oui, sur Europe 1, sur RTL, sur Ouest France.
Voilà, donc
quasiment tous les médias, la PQR lui a accordé une place dans ses colonnes, quoi.
Voilà, donc il rappelle que les États américains qui ont assoupli leur législation sur le cannabis ont des produits beaucoup plus sains. Et le cannabis en France aujourd'hui, c'est l'alcool frelaté du temps de la prohibition. Donc ça, c'est la phrase qui revient à peu près dans tous les articles. Voilà, il rappelle que bien que la législation française soit une des plus stigmatisante ou une des plus contraignantes, une des plus répressives, les jeunes Français sont ceux qui ont le plus essayé d'en consommer. Alors qu'aux Pays-Bas, où il est légalisé, ou en tout cas, où il est toléré, hein, je vais modérer ses propos, parce qu'il n'est pas exactement légalisé aux Pays-Bas, le taux est de seulement 29% chez les jeunes. Presque 20 points de moins quand même, voilà, donc c'est assez important. Donc, et d'ailleurs, toutes les études montrent que ce n'est pas la politique répressive qui fait baisser la consommation, c'est les jeunes, au contraire. Ensuite, qu'est-ce qu'on rappelle ? Il rappelle, alors, j'aime bien cette phrase, cette loi stupide est une des causes de l'augmentation du nombre d'usagers en France, hein, voilà. Donc ça, c'est dit. On retrouve d'après dans les différents articles des chiffres sur le nombre de consommateurs. Donc on est donc 17 millions de Français qui disent avoir déjà fumé du cannabis une fois dans leur vie. Je pense qu'on devrait même être au-dessus de ça avec tous ceux qui s'en souviennent pas, comme des Valls par exemple, qui ont peut-être usé vaguement une fois sans avoir vraiment tiré dessus, mais voilà. En fait, il l'a fait passer et... Bon, on passera là-dessus. Donc, au moins 17 millions de Français ont fumé au moins une fois. 1,4 disent fumer régulièrement, c'est-à-dire plus de 10 fois par mois. Et quand on prend ceux qui fument au moins une fois dans l'année, on arrive à plus de 4,6 millions en consomment au moins une fois par mois. Voilà. Donc on retombe globalement sur les chiffres
habituels.
Habituels, voilà. C'est ce qu'on sait. Et ça, Et c'est ce qu'on a remarqué quand toutes les études qu'on a lues et qu'on a vues depuis 20 ans montrent que dans le monde entier, il y a une frange de la population qui utilise le cannabis. Et quel que soit le milieu social, on retrouve les mêmes pourcentages, sachant que les milieux sociaux élevés consomment en général plus que les milieux sociaux défavorisés. En tout cas, dans les travailleurs, les chômeurs fumeraient un petit peu plus que leur milieu social. Voilà, quoi. C'est des choses à voir qui sont très très variées. Et donc, en général, ça va de 3 à 7% le nombre de fumeurs, quel que soit. Donc, on peut dire qu'à dans tout le monde entier, dans quelle que soit la classe sociale, il y a environ 5% de la population qui fume. Donc, chaque fois que vous voyez 20 personnes, vous êtes à peu près sûr qu'il y avait un fumeur là-dedans. Qu'est-ce que tu as noté dans tout ce que tout ce qu'a dit Bertrand Dotzenberg d'autres
Pas grand-chose à rajouter, juste une chose quand même parce que bon, les mots sont importants. Dotzenberg parle de dépénalisation contrôlée. On sent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il propose, que on est plus proche d'une légalisation que d'une dépénalisation. Bon, je pense qu'il n'est pas ric-rac avec les termes. Ce monsieur Dotzenberg, qui par ailleurs est pneumologue, mais n'est pas juriste, hein, on peut lui pardonner ça. Un peu plus loin dans cette revue de presse, il y a Esther Benbassa.
Alors, moi,
qui s'exprime.
Pour finir sur lui, donc, bon, plus c'est interdit, plus il y a de consommateurs, ça on l'a dit, il reproche que les politiques n'osent pas bouger. Mais il ne parle pas que de dépénalisation, hein, là, dans.
Quasiment que.
Là, il dit, je veux une légalisation complète mais régulée avec un encadrement de la prévention pour pouvoir organiser sa diminution.
Et ouais. Donc, il se réfère. Je suis très étonné parce que moi, je l'ai jamais entendu dire ça de sa bouche et même sur Canal la semaine dernière, il a absolument pas employé le terme de légalisation.
Je suis très étonné d'avoir lu ça. Peut-être le Figaro qui.
Alors peut-être que effectivement
le. Qui a travesti ses propos.
Non, ou qu'ils ont, clarifié son propos.
Peut-être.
Voilà, j'ai plutôt pensé à ça.
En tout cas, il se rapproche beaucoup des législations qu'il y a sur le tabac, des préventions qu'il y a sur le tabac. Il rappelle que depuis qu'il y a de la réelle prévention sur le tabac, eh ben, le nombre de fumeurs baisse. Alors que la prohibition, malgré une prohibition dure, répressive, eh ben, le nombre de consommateurs augmente. Voilà, donc... Oui. Donc on va peut-être revenir, donc comme tu le disais, sur Esther Benbassa, donc sénatrice EELV, qui a organisé un débat au Sénat il y a quelques mois.
Oui. Enfin. Excuse-moi,
elle avait organisé un débat au Sénat il y a quelques mois.
Non, elle n'avait pas organisé un débat.
Oui, elle avait posé une question.
Non plus. Elle avait déposé un projet de loi de légalisation. Et le Sénat, dans le cadre de ses fonctions, avait rejeté.
Voilà. Et donc il y avait eu un débat avant de le rejeter.
Et ils avaient été. Effectivement,
j'ai fait un raccourci, excuse-moi.
Et n'étaient présents, effectivement, qu'une trentaine de personnes sur 300 et quelques sénateurs. On se demande où ils étaient, hein. On se demande à quoi on les paye d'ailleurs, hein, parfois, mais bon. En tout cas, sur ces sujets, bon, généralement, il n'y a pas foule dans les hémicycles. Bon, voilà ce qu'elle avait fait.
Voilà, donc là elle revient un peu dessus. Elle applaudit un petit peu ce que dit Bertrand Dotzenberg.
On lui pose des questions, surtout, elle répond à une interview.
Le débat a été un petit peu relancé par elle, oui, c'est dans Public Sénat d'ailleurs. Et donc elle explique, et surtout ce qui est mis en exergue dans le titre, c'est que la légalisation rapporterait plus de 2 milliards d'euros à l'État. Je pense qu'elle exagère un petit peu, mais peut-être. Faut voir, ça dépend du pourcentage, ça dépend de pas mal de facteurs.
Oui, enfin, elle reprend un peu les chiffres du rapport Terra Nova de l'année dernière, en fait. Hein. C'était à peu près ce que disaient Coop et Ben Lagdar, hein, dans le rapport Terra Nova, quoi. Mm-hmm.
Voilà, donc elle rappelle un petit peu, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que la consommation de cannabis est autorisée en Hollande et c'est chez nous qu'on en consomme le plus, voilà, malgré la répression et la politique répressive. Elle rappelle que dans les États américains où la vente est contrôlée, le niveau de THC du cannabis est contrôlé lui aussi et on ne fait pas consommer aux gens n'importe quoi qui peut être dangereux. Voilà, il faut aller vers de la production jusqu'au contrôle de la vente avec un travail de prévention et d'accompagnement. Voilà, donc bref, une légalisation contrôlée, accompagnée. Voilà, c'est pas une dépénalisation ou une décriminalisation, bien sûr, mais surtout une légalisation encadrant la consommation et laissant les personnes majeures, adultes, utiliser tel ou tel produit tel que bon leur semble. Allez, on repart un petit peu en musique.
Repartons.
Et on viendra conclure sur faire un petit sujet.
L'autre jour, dans mon courrier, j'ai reçu des papiers. Je vous le dis, j'en suis resté tout pâle. On me disait tout d'arrêt, t'allais me présenter à la caserne qui se trouve dans mon quartier. Je m'en fais donc là-bas et je leur dis, c'est moi, je viens ce matin pour voir de quoi qu'il retourne. On m'a donc fait enterrer et je leur ai demandé à voir celui-là qui m'avait convoqué. Me v'là dans un bureau, oh, qui était pas ben beau. Il y avait, c'est vrai, une petite secrétaire avec un uniforme qui collait à ses formes. Je m'en suis senti bientôt ragaillardi. Il y avait aussi un militaire assis qui me dit, mon petit, qu'est-ce que vous venez faire? Moi, j'y ai répondu, ben, c'est qu'on m'a convoqué. Monsieur soldat, c'est pour ça que je suis là. Quoi? Quoi? Qui m'a dit? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre un peu voyou là? Dites mon loulou, ça va pas? Vous êtes nerveux? Prenez du hashish le matin dans le café au lait, non, pour être dans cet état. Et puis dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ces gestes érotiques que vous avez fait en entrant dans ma direction. Attention, jeune homme, hein? Je suis un vieux militaire, un intellectuel, nom de Dieu, le bon Dieu, je crée. Nom de Dieu, mais c'est vrai ça, enfin, je sais pas qui vous êtes. Vous arrivez, vous entrez, vous êtes en frappé, là. Vous me regardez droit dans l'œil, le seul qui me reste depuis 18. Des ricanements. Ah, oh, je pense que c'est une grosse tête, hein, Besançon, tout ça, le Dauphiné. Debout, sans retard, où je bouffe une guitare, moi. J'y ai répondu. Je suis qu'un jeune conscarif, il n'y a pas d'enfance. Si je connais pas l'usage, je vous voyais assis, je me suis assis aussi. Voici pourquoi j'agis ainsi. Je me suis relevé et je lui ai avoué que j'étais pincé pour sa petite secrétaire. Puis j'ai voulu savoir si elle sortait le soir et si les bleus avaient le jeudi pour eux. Il est devenu tout noir, c'était pas beau à voir. Il s'est levé et m'a botté les fesses. Et puis il m'a conduit chez un ami à lui, en adjudant qui m'a fourré dedans. On m'a rééduqué toute la matinée. L'après-midi, j'ai balayé les chiottes et ça a continué. Pendant des mois entiers, jamais tant balayé. Quand je vois les autres gars marcher sans se tromper de pas, je me dis que moi, je suis un incapable. J'ai pas de coup au fusil et dans ma compagnie, on dit que je suis le plus con des conscrits. Ils me l'ont répété pour faire un bon taroupier. Obéissez aux officiers de carrière. De vrai, le beau Michou, la colère est adjudant lui, il finira lieutenant. Pourvu qu'on trouve moyen de vivre sans temps pour émerger du rang. Un seul commandement, travail constant de poids et discipline. Moi, si pendant 20 ans je balayais la terrine, je vois pas pourquoi que je serais pas commandant.
Et voilà, donc c'était Mouloudji qui sente Boris Vian, avec une petite allusion.
Ah, je ne l'ai pas capté.
Voilà, des petits joints au petit déjeuner.
Ah, c'était ça, d'accord. Bon, je n'ai pas été assez attentif, je pense. Voilà, donc bah, on continue notre revue de presse. Il nous reste à peine 10 minutes pour analyser...
Pour parler de la pause marijuana.
Ah, la pause marijuana, voilà, dans certaines entreprises du Colorado.
Voilà.
C'est le journal de Montréal qui nous parle de ça.
Tout à fait, donc...
Suite à un article de CNN Money.
Tout à fait.
Ah, c'est de là que ça vient.
Et donc, une des sociétés citées en exemple est la firme FlowHub, donc qui est un éditeur de logiciels spécialisés pour l'industrie du cannabis, évidemment.
Bah, oui.
Donc les deux fondateurs sont eux-mêmes des usagers de marijuana. Et donc, ils disent, si la consommation de mari aide nos employés à faire leur travail, alors nous n'avons pas d'inconvénient à ce qu'ils en consomment au bureau. Et donc, dans les États où ça a été légalisé, hein, de pas mal de... Quoi, quelques-uns en tout cas, quelques entreprises laissent leurs employés consommer de la marijuana. Évidemment, si c'est dans des doses raisonnables et si ça ne nuit pas à leur travail, au contraire, puisque a priori ça permet de comment dire, d'ouvrir les neurones et d'avoir de nouvelles idées.
D'élargir les esprits, on va dire, d'ouvrir les neurones, je sais pas. Mais...
Voilà.
En tout cas, de stimuler la création intellectuelle.
Voilà, tout à fait, stimuler si la créativité.
Si on n'en fume pas trop, hein, je précise, parce que je pense que si toute la journée ils en fument au boulot, je ne suis pas sûr qu'ils soient très créatifs à la fin de la journée.
Voilà, voilà. Donc le cofondateur de Massroots dit que chaque semaine ils font des réunions, des brainstorming pour créer des liens entre les employés. Et pour lui, il est plus productif et plus, il faut être le plus productif et créatif possible. Et donc, si le cannabis peut aider à atteindre cet objectif, alors nous le permettons. Voilà. Mais bon, toutes les boîtes ne le permettent pas. D'autres le font quand même. Voilà. D'autres le font en se cachant de leurs employeurs. Mais bon, de plus en plus, des employés donc consomment régulièrement du cannabis. Pendant les heures de travail. Voilà, et donc certains disent que ça leur donne un second souffle qui peut fournir un peu plus de travail grâce à ça. Voilà, mais en tout cas, ça existe et voilà, ça va aussi contre les idées reçues.
Ouais, mais en France aussi ça existe, hein. Moi j'en connais des gens, hein, qui fument au boulot. Ils ont un travail qui leur permet, quoi.
Oh,
je connais.
C'est vrai.
Mais oui, mais tout à fait. Depuis au moins 20 ans déjà. Mais les personnes à qui je pense travaillent, par exemple, sont des développeurs de sites web, des gens qui travaillent un peu dans l'art ou voire carrément, enfin.
Oui, ou dans certaines tâches répétitives et ennuyeuses, c'est aussi très bien.
Oui, voilà. Enfin bon, en tout cas, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément toléré par l'entreprise. Là, moi, je te parle de gens où, dans l'entreprise, c'est pas un problème, quoi. Enfin, ça se fait. Et voilà, quoi. C'est donc, bon. Après, bon, là, effectivement, c'est autre chose. Aux États-Unis, on voit que là, les entreprises où ça a lieu, où c'est autorisé, souvent, la direction elle-même est participe également. Enfin, bon. C'est un peu différent. Je reconnais. Voilà.
Voilà. Et donc, nous allons finir cette revue de presse. Avec tout ce qu'on vous a annoncé, on est arrivé à...
Il nous reste 4 minutes, le dernier article qui fait 2 pages et demie, on va vraiment le survoler alors.
Ouais.
Alors je vous lis le titre. Pourquoi certaines personnes consommant du cannabis pour la première fois se sentent, entre guillemets, coincées dans un high? Alors cet article, je l'ai sélectionné pourquoi?
C'est beau.
On a sélectionné cet article pourquoi? Parce que, c'est très rare qu'en fait on parle de ça, c'est-à-dire de gens qui vont consommer et qui vont se sentir planer pendant plusieurs jours, ou d'autres qui vont consommer la première fois et qui vont se sentir alors là plutôt coincés et qui vont faire une expérience désagréable du produit. Et ça existe, il y a aussi des gens qui ne tolèrent pas le cannabis ou le tolèrent mal et qui se sentent très mal après en avoir utilisé. Et cet article parle un peu de ça. Alors, on ne donne pas non plus des réponses définitives et claires, mais je trouve qu'il y a quand même certaines infos très intéressantes. Et donc, je vais tout de suite vous donner les coordonnées, entre guillemets, internet. Donc, c'est sur Senseicide, donc http://senseicides.com. Et si vous êtes sur le site, sur le blog, vous tapez certaines, pourquoi certaines personnes consomment du cannabis pour la première fois. Déjà, si vous tapez ça, je pense que vous arriverez à l'article. Et c'est Sechata qui a posté cet article sur le blog de Senseicides. Et c'est daté du 29 janvier.
Voilà. Et sinon, bon, deux, trois petites choses que j'ai notées qui sont intéressantes, ou que j'ai trouvées intéressantes en tout cas. Donc, c'était pour la durée du high qui continue le lendemain. Donc, rien à voir avec la gueule de bois quand on a trop consommé d'alcool. Hein. Puisque le
corps peut dégrader en 3-4 heures l'effet voilà. Du high, justement. Ah. Mais.
Voilà, mais alors voilà, dans la gueule de bois, on se sent un peu somnolent, fatigué, à moitié endormi. Et là, ce sentiment léthargique qui est lié au cannabis peut être expliqué parce qu'on réduit la durée du sommeil paradoxal.
Donc, le THC, en tout cas, réduit cette durée. C'est ce qui semblerait. C'est ce qui est dit en tout cas dans l'article et c'est plusieurs études apparemment attesteraient cela.
Voilà, donc après, bon, y en a qui ont des expériences délicieuses, y compris dans leur première tentative ou leur premier essai, avec un usage très psychédélique. C'est après leur cas peut être étudié parce que c'est dans la conversion dans le foie du THC par différents métabolites. Qui se produit plus lentement que dans la moyenne des gens, voilà. Et donc, comme le THC est dégradé plus lentement, et ben, il rencontre pendant plus longtemps les récepteurs CB1, causant des effets psychoactifs. Voilà un petit peu sur les effets négatifs persistants. Là aussi, ils ont des théories ainsi que sur les effets paniquants du cannabis. Qui sont statistiquement minuscules, mais ils existent. Alors là, ils font une théorie par rapport au taux de THC comparativement très important, plus important que le CBD. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quelque chose dont qu'on a déjà évoqué, ce rapport THC-CBD dans l'air ou dans les produits, en particulier avec les problèmes qu'il y avait eu avec le cannabis de synthèse, qui n'avait pas du tout de CBD, et donc qui créait pas mal de problèmes. Donc, voilà un petit peu.
Alors, le CBD, c'est du cannabidiol, c'est un cannabinoïde parmi les 107. Cannabinoïdes déjà identifiés par les chercheurs. Et effectivement, selon les herbes, il y a des variétés qui sont plutôt pauvres en CBD et riches en THC, d'autres c'est un peu plus équilibré. Puis il n'y a pas que le CBD, il y a le CBN aussi par exemple.
Voilà, et il y a beaucoup de cannabinoïdes qui n'ont pas été étudiés, dont on connaît peu les effets, qui sont peut-être en pourcentage très très faible, mais peut-être que ça peut suffire à contrebalancer ou à amener au contraire des effets très négatifs. Voilà. Le débat reste totalement ouvert là-dessus.
En tout cas, un cannabis riche en THC, mais aussi riche en CBD, peut permettre de juguler justement le fort effet du THC.
Voilà. Dans cet article, il parle aussi du pourcentage de THC des herbes. Donc, quand on entend parler d'herbes à 30, 35, 40% de THC, donc là, ça c'est un mythe. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que dans les années 80, le taux moyen de THC se situait aux alentours de 2 à 3%. Voilà. Alors, et qu'actuellement, il est sûrement plus élevé que 3%. L'ONUDC rapportait que au Colorado, l'ONUDC rapportait un taux moyen d'environ 10%. Et au Colorado, aujourd'hui, la moyenne se situerait autour de 18,7%. Voilà. Donc, je pense que de dire que le taux de THC n'a pas augmenté.
Je dis pas ça. Moi, je dis que j'ai pas la preuve formelle. Et que là, on l'a toujours pas, d'ailleurs, dans cette petite démonstration, là, dans ce paragraphe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, encore une fois, je le répète, on nous dit que on avait collecté des cannabis dans les années 70, qu'on les a gardés et qu'on peut faire La comparaison entre le cannabis d'aujourd'hui, on peut pas le faire. Ça.
Je pense que dans les années 80, non. Mais par contre, ce que l'ONUDC disait sur le taux moyen d'environ 10%, et je pense basé sur des prélèvements, et que le 18-7 au Colorado est aussi basé sur des prélèvements. Donc, en tout cas, où il y a une culture, surtout que les Américains cherchent toujours le maximum de défense, voilà.
Oui, mais ceci dit, on ne m'apporte toujours pas la preuve qu'on avait collecté des variétés et des échantillons dans les années 60 ou 70 qui permettent de faire une comparaison avec les variétés de cannabis d'aujourd'hui. Ça, on peut toujours pas le faire. Donc, en fait, on reste sur des estimations.
Oui.
Et une estimation, c'est pas une preuve. Tout simplement. Et dans certains endroits du monde, on sait, et depuis très longtemps, qu'il y a des variétés de hashish ou d'herbes qui sont particulièrement forts.
Tout à fait. Voilà. Qui ont des effets particulièrement forts. Parce que je me souviens, parce qu'on avait eu la chance de pouvoir tester des résines à un moment et des herbes. Et on avait fait tester un hashish afghan, qui revenait directement de là-bas, de très bonne qualité. Et il n'avait que 7%
de THC, oui.
Voilà, donc comme quoi, voilà, c'était juste. Je finirai juste par la conclusion, voilà, parce que bon, il parle aussi des troubles psychotiques, etc. Donc
juste pour par rapport à ça, dire que là, en tout cas, le THC, en tout cas, semble être l'agent perturbateur par excellence, quoi. Voilà, juste continue parce que là on va se faire foutre dehors.
Ouais, mais ils arrivent, ils commencent à nous pousser.
Ouais, bah ils
voilà, donc les symptômes psychotiques donc seraient moins forts avec des hautes concentrations en CBD, donc ce qu'on disait tout à l'heure, et surtout d'autres facteurs plus que ce facteur qui est sans doute déterminant, s'il y a un environnement apaisant, un estomac plein, une bonne hydratation et un esprit lucide, et ben les expériences cannabiques se déroulent beaucoup mieux,
voire quasiment tout le temps bien, ouais. À moins d'avoir une prédestination qu'on ignore, et ça aussi c'est un autre problème, et le THC peut la révéler. Voilà, c'est tout.
Voilà, et c'est là-dessus qu'on va vous quitter. On vous souhaite une bonne semaine à tous.
Maintenant c'est Chasseurs de Son, et Cannabis Circus revient lundi prochain, même heure, même jour.
Et voilà, et si vous voulez nous trouver, bah vous tapez Cirque Lyon sur
Internet.
Internet. Vous pouvez même retrouver nos émissions et tout ça. Allez, ciao à tous, on débarque.
À la semaine prochaine, merci, au revoir.